Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Métropolez-vous, que vous soyez fidèles de longue date ou nouveaux auditeurs de cette émission. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous avons commencé une série consacrée aux communes de la métropole toulousaine. Il y en a 37 à ce jour et donc autant à découvrir, certaines étant plus connues que d'autres bien entendu. Après Blagnac et Flourens, c'est avec la commune de Mons que nous allons poursuivre notre exploration du territoire métropolitain. Encore une commune de l'est toulousain, voisine de Flourens, notre étape précédente dans cette portion de territoire. Aux confins du Tarn et du Lauragais, il est probable que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas Mons et ignorent même qu'elle fait partie de Toulouse Métropole. Pourtant, cette commune gagne à être connue, notamment pour son histoire très riche où apparaissent d'étonnants personnages. Nous allons vous la raconter lors de ce numéro que nous avons intitulé « Mons à travers l'histoire ». Et pour nous guider à travers l'histoire de Mons, Métropolez-vous reçoit aujourd'hui Julien Albar et Jean-Marie Rouvière, deux Monsois et surtout deux passionnés d'histoire qui œuvrent à faire connaître celle de leur commune. Au sein du groupe Histoire de Mons, ils ont accepté de participer à cette émission pour partager avec nous tout le savoir qu'ils ont accumulé et je les en remercie chaleureusement. Bienvenue aussi à tous les deux. Ce groupe Histoire de Mons, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Quand est-ce qu'il a été créé et quels travaux y menez-vous avec vos camarades? Je crois que vous êtes une douzaine actuellement.
Nous sommes à l'heure actuelle 9 personnes, comme vous dites, passionnées, pas historiennes, mais passionnées de cette histoire locale. L'histoire locale que nous avons depuis une douzaine d'années maintenant essayé d'approfondir. Au départ, Julien et moi, nous sommes partis sur l'idée que 2 ans... suffirait largement à creuser cette histoire qui ne présente chez nous plus maintenant d'objets réellement visibles puisque nous n'avons pas de patrimoine bâti qui pourrait nous asseoir un petit peu sur cette recherche. Donc on s'est dit, allez, 2 ans, 3 ans de travail, on fait un joli CD pour laisser ça aux enfants et nous pourrons être contents. Mais là, ça fait 12 ans maintenant, ça fait 12 ans que nous nous réunissons tous les lundis soirs pendant 1h30, que nous grattons un petit peu tout ce que nous avons pu récolter à gauche et à droite, parce que c'était très vaste comme sujet en définitive. Et dès le début, nos recherches nous ont conduit chez un personnage haut en couleur et en verbe. C'est un vieux Monsois, Claude Manenc, qui est décédé il y a 6 mois de ça, et qui nous avait été présenté comme la mémoire vivante du village. Très tôt, il avait dû abandonner l'école et remplacer son père malade à la ferme. Passionné depuis l'âge de 13 ans, il récoltait dans les champs des objets, des morceaux d'amphores, des pièces, des ossements, enfin tout ce qu'il pouvait, et également des informations auprès des membres de sa famille qui étaient monsoises depuis plusieurs générations. C'est lui qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Il ne s'était jamais marié, mais il avait une vie sociale très bien remplie, grâce entre autres à la gentillesse de quelques voisins. Voilà, donc il est décédé il y a 6 mois de cela, après une vie qui n'a été qu'une suite de problèmes qu'il abordait avec beaucoup de philosophie et de malice. Il nous a beaucoup apporté, si ce n'est que sa gentillesse, mais en plus cette grande connaissance qu'il avait du village. Et notre groupe continue donc un petit peu tout ça, fidèle à notre première idée, c'est-à-dire apporter cette connaissance que nous pouvons avoir aux enfants, et nous intervenons à l'école sur demande des instituteurs pour présenter le village que nos enfants vivent et voient tous les jours. Et parfois, nous sommes surpris de l'écoute de ces enfants. C'est eux souvent qui incitent leurs parents à venir nombreux aux randonnées et expos que nous organisons.
Alors peut-être une précision importante, c'est que le groupe Histoire de Mons est rattaché au foyer rural de Mons. Et d'ailleurs, c'est là que vous vous réunissez tous les lundis.
Exactement, oui.
Donc, c'est pas une association à part entière.
C'est une section du foyer rural, comme il y a d'autres sections au niveau danse, au niveau sport, etc. Et donc nous sommes dans le cadre de cette structure-là.
Très bien, ben merci pour cette présentation du groupe Histoire de Mons et pour ce bel hommage à Claude Manenc, donc qui était la mémoire vivante du village et un peu finalement presque l'initiateur du groupe, en tout cas l'inspirateur du groupe.
Inspirateur.
Nous remonterons les siècles de l'histoire de Mons dans quelques minutes avec vous deux, Julien Albar et Jean-Marie Rouvière. Pour l'instant, il est l'heure de prendre le pouls de l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son traditionnel flash d'informations hebdomadaire. Métropolez-vous, L'actu. C'est avec une information qui concerne le secteur de l'emploi que nous ouvrons ce flash. Elle étonnera peut-être. En Occitanie, 3/4 des offres sont proposées en CDI.
Effectivement, Eric, c'est ce qu'annonce en tout cas Hello Work, l'acteur digital français de référence sur le marché de l'emploi, du recrutement et de la formation. Il a diffusé sur l'ensemble de ses plateformes plus de 240 000 offres d'emploi au troisième trimestre 2019. Toulouse Métropole connaît de son côté une croissance de plus 21% au troisième trimestre. Par rapport aux autres métropoles, la métropole du Grand Paris est en tête des métropoles les plus dynamiques au troisième trimestre, avec plus 38% d'offres d'emploi diffusées. Viennent ensuite la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la métropole européenne de Lille. En fin de classement, l'Eurométropole de Strasbourg ferme la marche avec plus 10% d'offres d'emploi proposées. La métropole de Lyon enregistre quant à elle une hausse de 16% de son volume d'offres d'emploi et représente 16% du volume d'offres à pourvoir dans ce top 10 des métropoles.
Une information sociologique maintenant. Étudiants et actifs sont au cœur des échanges migratoires entre la métropole toulousaine et son aire urbaine.
Oui, selon l'INSEE, au sein de l'ensemble formé par Toulouse et ses 17 villes moyennes qui l'entourent, quelque 20 500 personnes déménagent d'une aire urbaine à l'autre durant l'année 2014, dont un quart d'étudiants. En dehors de ces derniers, les échanges se révèlent plutôt équilibrés. Il y a presque autant de mouvements de Toulouse vers une des aires urbaines proches que dans l'autre sens. Les profils de ceux qui déménagent depuis Toulouse varient selon l'aire de destination. À Montauban, plutôt des couples et des cadres, et à Auch, des cadres ainsi que des personnes seules. En revanche, à Saint-Gaudens, sous Tarbes, les ouvriers sont plus nombreux parmi les nouveaux arrivants depuis Toulouse. Forte d'une offre de formation variée, Toulouse, mais aussi Albi et Tarbes captent la majorité des déménagements des étudiants. La métropole est au cœur de la majorité des échanges en tant que destination, mais aussi comme point de départ. Ainsi, 8400 personnes qui habitaient dans l'une des 17 autres aires du système emménagent dans celle de Toulouse, tandis que 6500 font le chemin inverse. Les étudiants représentent un quart des échanges au sein du système. Les actifs, les retraités, les familles qui la quittent pour une autre ère du système sont presque aussi nombreux que ceux qui s'y installent.
Et puis pour terminer, une information dont vous avez peut-être entendu parler. Un élu de la mairie de Toulouse a démissionné après avoir été entendu dans une affaire de viol.
Oui, le conseiller municipal toulousain Frédéric Brasilès a été interpellé et placé en garde à vue avant d'être relâché. Les policiers l'ont interrogé suite à des plaintes pour viol et agression sexuelle. Il a donné sa démission au maire de Toulouse. Dans le passé, il avait déjà été placé en garde à vue pour des faits similaires sans qu'il y ait de suite judiciaire. L'élu était déjà visé par une plainte récente pour corruption. Jean-Claude Pellegrino a donc pris sa place au conseil municipal et prend en charge la délégation des fêtes et manifestations. Roger Atstarias devient lui conseiller métropolitain.
Le flash hebdomadaire de Corinne Saint-Félix et Julien Albar et Jean-Marie Rouvière. Je me disais qu'il y a peut-être une information à laquelle vous pouvez réagir. La deuxième, celle qui concerne les flux de population à l'intérieur de l'aire urbaine de Toulouse. Est-ce que la commune de Mons fait partie de ces communes métropolitaines dont la population augmente beaucoup depuis quelques années? Pas beaucoup en pourcentage, j'entends.
Oui, le développement de Mons a commencé avec les premiers lotissements. Disons, c'était une commune uniquement rurale. Son développement a commencé vers 1962-1965 avec les premiers lotissements. Et à ce moment-là, en 1962, il y avait 205 habitants et nous sommes actuellement 1800 habitants. Mais la plupart de ces habitants sont des cadres qui viennent de Toulouse et qui veulent habiter à la campagne. Dans l'Est toulousain, le prix du mètre carré, disons, fait que peu d'immigrés viennent s'installer à Mons compte tenu du prix des terrains qui est relativement élevé.
Et dissuasif, si je comprends bien.
Voilà.
Tout à fait.
Donc c'est plutôt, comme on dira à l'INSEE, une sociologie de CSP+.
Voilà.
Bon, alors après ce flash d'informations consacré à l'actualité métropolitaine, retour vers le passé, nous reprenons le fil de cette émission pour remonter le temps et nous plonger dans l'histoire de la commune de Mons.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec nos invités Julien Albar et Jean-Marie Rouvière, membres du groupe Histoire de Mons. Et comme je l'avais fait lors des numéros que nous avons consacrés à Blagnac et à Florins, je vais commencer par vous demander d'où vient le nom de la commune de Mons, quelle est son étymologie. A priori, elle semble assez transparente à première vue.
Oui, pour repréciser où est situé Mons, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à 7 km de Balma et les communes avoisinantes sont Florins, Drémil, Pin-Balma, Mondouzil, Balma et La Valette. Le nom de Mons, le nom lui-même caractérise la topographie des lieux. Le nom de Mons existe depuis de très nombreuses années puisqu'on le retrouve vers 1100-1200. Il s'écrivait peut-être légèrement différemment, actuellement M-O-N-S, mais il s'est écrit avec un Z, avec un T-S, les Monts. Et on retrouve dans des textes du Moyen-Âge le nom de Montibus, le nom latin en quelque sorte, ou latin occitan, et on le retrouve d'ailleurs pour des communes voisines comme Mondouzil avec Monte Dosino, la pente douce, comme Montrabe, Monte Rapido, pente raide, et ces noms ne sont pas inventés, ces noms on les retrouve sur les documents de l'époque. On peut citer aussi Monte Oriolo pour Monte Oriol, qui se trouve sur la commune de Drémil. Au niveau topographie, on peut dire que les coureurs qui participent chaque année au semi-marathon de Mons au mois de mai, 300 à 400 coureurs, connaissent bien cette topographie du Lauragais avec les côtes et les descentes. Voilà.
Alors j'en viens à vraiment l'histoire de Mons proprement dite. Est-ce qu'on a des traces de présence humaine avant l'époque gallo-romaine ou est-ce que c'est vraiment là que tout commence sur ce territoire ?
On peut parler du mot trace, effectivement, puisqu'il n'y a pas grand-chose, mais on peut remonter à la préhistoire avec des galets taillés qui ont été retrouvés par les agriculteurs en labourant leurs champs. Ensuite, à l'époque romaine, il y a l'abbé Bacabrère, dont il a été question dans l'émission sur Florence.
Le fameux abbé Bacabrère.
Voilà, curé de Florence, mais de Quinte aussi, qui, chaque fois qu'il y avait un chantier, était là pour voir s'il y avait des vestiges à découvrir. Et dans le cas de Mons, il a en particulier donné un nom bien pompeux, pour pas grand-chose, effectivement, c'était le nom de la nécropole romaine du Bas-Empire. Effectivement, nous avons ça à Mons, mais ce n'est pas la peine de courir pour venir voir, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir à ce niveau-là. Il y avait un trou avec dedans peut-être quelques mobiliers, quelques casseroles, bref, de l'époque. Ensuite, comme ailleurs, disons, dans les communes du voisinage, il a été découvert des poteries, des morceaux d'amphores, des tuiles, et tout cela a été déposé à l'Institut catholique, le musée de l'Institut catholique qui était géré par l'abbé Bacabrère. On a trouvé aussi des agriculteurs, des pièces de monnaie, quelques rares pièces de monnaie, peut-être une dizaine, de l'époque romaine et même peut-être avant, concernant les allobroges, les tectosages et aussi la monnaie de Nîmes. Voilà les quelques traces que nous pouvons avoir sur la commune.
Donc c'est vraiment, je suppose après, à partir du Moyen-Âge, que là on a des choses beaucoup plus intéressantes, oui. Si je puis dire.
Oui, tout à fait. C'est, comme le dit Julien, c'est vrai qu'on a peu de traces visibles chez nous. Donc très tôt, nous nous sommes tournés vers tout ce qui pourrait être des traces écrites. Et évidemment, principalement vers les archives départementales, étant donné que les archives municipales sont quand même très pauvres. Comme dans beaucoup de villages, les mairies étaient à l'époque plus ou moins chez des particuliers, ce qui fait que des traces écrites se perdaient avec le changement de maire. Aux archives départementales, par contre, là, nous avons eu une très bonne surprise, c'est que Mons ayant eu de nombreux notables toulousains comme seigneurs ou comme grands propriétaires terriens, on a trouvé un grand, grand nombre de documents. Peut-être même un peu trop grand pour nous, parce que nous avons une masse de documents tellement importante qu'il nous faudra à peu près une cinquantaine d'années à nous les retraités pour pouvoir tout prendre. Donc c'est quand même quelque chose de très important chez nous. Le plus vieux document que nous ayons trouvé est daté de 1183. Il concerne une cession de terrain par un dénommé Bertrand de Mons, qui fut capitoul en 1188 et qui a participé à la révolution toulousaine du 6 janvier 1189, dans lequel les capitouls ont pris le pouvoir, disons.
Alors après, qu'est-ce qu'on trouve à cette époque ? Je crois qu'il est question d'une seigneurie de Mons.
Oui, concernant les seigneurs de Mons, comme le disait Jean-Marie, à savoir, c'était des notables toulousains, et on peut citer plusieurs grandes familles, en particulier les Morans, pensez à la tour Moran, rue du Thor, Les Morans, trois à quatre Morans ont été seigneurs de Mons, mais il faut préciser seigneurs de Mons et autres lieux. Il en a été de même des Pubusques, une grande famille toulousaine. Là aussi, trois ou quatre Pubusques ont été seigneurs de Mons et autres lieux parce qu'ils habitaient très certainement plutôt à Mormont ou à Varennes, près de la route, disons, de Revel. Voilà, on pourrait parler en particulier de Raymond Ier de Pubusque, qui est bien noté seigneur de Mons et qui était aux côtés du comte Raymond VI lors de la bataille de Muret en 1213. On pourrait peut-être aussi parler de Pierre Morand, le premier des Morands si l'on veut, mais nous n'en sommes pas sûrs qu'il ait été seigneur de Mons. Il était hérétique, il faisait partie, disons, des cathares de Toulouse. D'ailleurs, beaucoup de Toulousains en ce moment-là, si c'est le plus grand nombre, étaient considérés comme cathares. Il a même été considéré comme le chef des Albigeois. Et pour expier ses fautes, disons, il a été amené, en fait, un de ses châteaux a été détruit. S'agissait-il du château de Mons ? Peut-être pas. Peut-être notre château, et il devait d'ailleurs aussi, pour ses fautes, disons, faire un pèlerinage à Jérusalem. L'a-t-il fait ou non? On ne sait pas. Il n'en est pas moins qu'au bout de 2-3 ans, il a retrouvé ses sièges de Capitoule et, je pense, ses différentes propriétés.
Donc, il n'y a pas vraiment de vestiges du château de Mons.
Oui, il a complètement disparu.
Il a complètement disparu, mais il y a des écrits. On a retrouvé des écrits, on a retrouvé des plans, des croquis de ce château. Et alors, ce château, tout ça, ça nous pose plus de questions que ça ne nous donne de réponses. Une des questions que nous nous posons et qui serait quand même relativement intéressante d'avoir la réponse, c'est de savoir à partir de quelle date on a ce château et comment a-t-il vécu. Ce château, il est déclaré en ruine en 1460 dans un procès. Mais on a retrouvé un plan daté d'après 1660 qui le montre bien debout. Sur les cadastres de 1824, les cadastres Napoléon, on voit encore des traces de murs. Les dernières briques de ce château ont servi à construire une ferme juste à côté de l'emplacement où il était en 1866. En l'an 2000, des travaux sur son emplacement ont découvert un carrelage de plusieurs dizaines de mètres carrés composé de deux briques juxtaposées qui ne datent à l'évidence pas du XVe siècle. Donc
c'est pas clair, si je comprends bien.
C'est vraiment pas clair. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à chercher encore. Alors, nous avons bien un château encore à Mons, mais c'est le château de Clairac, qui lui est bien, bien visible quand on vient de Balma. Mais on ignore totalement de quand est-ce qu'il a été construit. On a le nom des seigneurs différents qui l'ont habité, comme un dénommé Cassan Clairac, dont le nom était connu dans l'affaire Calas, puisqu'il était rapporteur de l'affaire Calas. Et comme vestige vraiment, nous n'avons que l'église, et encore là aussi, on ne peut pas vraiment parler de ruines ou de témoins anciens, puisque les derniers travaux ont été faits en 1878 avec la construction du clocher actuel.
Deux points importants dans l'histoire de Mons, les Chartreux et les consulats. Alors je voudrais que vous expliquiez un peu les liens de Mons avec les Chartreux et ce qu'on appelait les consulats.
Alors concernant les Chartreux, les Chartreux, qui sont venus à Toulouse, étaient au départ établis dans la Montagne Noire, puis ils ont été, vers 1300, établis à Seix, près de Castres. Et d'ailleurs, sous l'église de Seix, il y a actuellement un musée consacré aux Chartreux. Et lors des guerres de religion, en 1570, la Chartreuse de Seix a été pillée, incendiée, et les Chartreux ont dû quitter. Ils se sont réfugiés à Toulouse, il faudrait peut-être plutôt dire qu'ils ont été invités à Toulouse par l'archevêque et par les capitouls pour venir animer, disons, la vie toulousaine, apporter leurs compétences. Et les terrains entre Saint-Cernin et la Garonne leur ont été attribués. C'est là où leur première église, qui était déjà en place, était Saint-Pierre-des-Cuisines. Et par la suite, vers 1600, ils ont construit Saint-Pierre-des-Chartreux. Et actuellement, disons, on peut voir encore les arcades derrière lesquelles il y avait leur maison, en quelque sorte individuelle, et qui viennent d'être restaurées tout récemment à la faculté des sciences sociales. Revenons à Mons. Tout le plateau de Mons, disons, peut-être plus de la moitié de la commune actuelle, leur appartenait. Ils avaient là le château, donc, qu'ils avaient eu de la seigneurie, et ensuite un certain nombre de terres. Et il faut ajouter à cela qu'ils ont aussi acheté la seigneurie de Mondouzil en 1614, celle de Mons a été achetée en 1617, et aussi la seigneurie de Paulel. Lors de la Révolution, tous leurs biens, bien sûr, ont été confisqués et cela a été vendu en 1793, disons, comme biens nationaux, à un dénommé Catelan de Caumont, qui a été d'ailleurs un des premiers avocats au Parlement de Toulouse en 1782 et qui a pu acheter ses trois seigneuries et quelque chose comme 300 hectares de terre, à ce moment-là, à un prix, disons, relativement intéressant.
Ça, c'est pour les chartreux. Alors, il y a les consulats aussi.
Ah, les consulats. La commune de Mons, à l'heure actuelle, regroupe deux anciens consulats depuis la Révolution. Le consulat de Clairac et celui de Mons. Il faut rappeler qu'est-ce qu'était un consulat.
Oui.
C'était des petites zones géographiques dans lesquelles étaient élus ou nommés des habitants, que l'on appelait des consuls. Ils étaient soit élus par les habitants, soit nommés par les seigneurs aussi. Ils avaient un pouvoir représentatif des 10 habitants. Hein. Ils représentaient en définitive la population. Également, lorsqu'il s'agissait de répercuter les décisions des seigneurs, quand il s'agissait des choses pas très agréables, comme les impôts, les taxes, etc. Mais ils avaient aussi une fonction, c'est d'aller en justice lors de conflits avec les 10 seigneurs. Et c'est là que nous les retrouvons, grâce aux écrits de ces procès, que nous avons pu retrouver donc aux archives départementales. Et c'est là également que nous avons pu retrouver le déroulement de la vente de Mons au Chartreux en 1617. Voilà, donc les consuls étaient nommés pour un an et ils étaient deux consuls à chaque fois.
Alors, je reviens maintenant à une période que vous venez d'évoquer en parlant de la confiscation des biens des Chartreux, c'est évidemment la Révolution française. Ouais. Est-ce qu'il s'y est passé des choses particulières à Mons ?
Ah oui, ben c'est un petit peu la même chose que Francis Colombiès a pu raconter la dernière fois, à savoir, lors de la Révolution française en 1794, les cloches, les vases, les chandeliers, tout ça sont partis rue de la Fonderie, à l'actuel Institut catholique, pour être fondus et pour fournir des armes et de la monnaie. Par contre, nous, ici à Mons, nous avons quand même un personnage un petit peu particulier. C'est qu'en 1791, comme beaucoup de prêtres d'alors, le curé de Mons, qui s'appelait l'abbé Gobert, refuse de prêter serment. Et donc, il est exilé et il part en Espagne. Il est remplacé par un drôle de citoyen quand même, qui s'appelle l'abbé Jean-François Lacombe. Celui-ci est curé de Mondouzil, donc juste à côté. Et lui, il prête serment à la Constitution. Il devient maire de Mondouzil de 1770 à 1791. En mars 1794, il est nommé curé de Mons. Et un mois plus tard, il épouse une riche propriétaire monsoise, donc il devient propriétaire à Mons de beaucoup de terrains et d'un château aussi. Et pour finir, de 1798 à 1800, il est nommé maire de Mons. Voilà une vie qui est bien remplie quand même.
Alors, puisqu'on parle des personnalités marquantes de la commune, eh bien, en voilà une. Je suppose qu'il y en a eu d'autres à travers l'histoire. Notamment, je crois qu'il y a eu deux troubadours.
Oui, il y a eu deux troubadours. Le premier, disons, Nat de Mons, vers 1250. Plusieurs études ont été faites sur ses publications, sur ses textes, et montrent qu'il était bien de Mons. Il était comme troubadour auprès des cours d'Espagne, du roi d'Aragon et du roi de Castille. Et il a fait un certain nombre de textes très moralisateurs sur les rois dont on dispose et qui sont très intéressants à lire. Il y a un autre troubadour, Martin de Mons, qui était sur Toulouse, qui a eu le prix de l'Églantine en 1436. Est-il vraiment de Mons? Le nom le laisserait penser, mais nous n'avons aucune certitude.
Alors, il y a d'autres personnages attachés à la commune. Les frères Gassot.
Les frères Gassot.
Ça, c'est particulier.
Ah, les frères Gassot. Deux frères, donc, qui se prénomment Charles et Julien Gassot. L'un est pharmacien et l'autre chimiste. Et lorsque nous faisons le tour de Mons avec des nouveaux Monsois ou des gens qui veulent connaître un peu l'histoire, c'est une question que l'on pose souvent et qui laisse souvent les gens perplexes. On parle d'irudothérapie. Qu'est-ce que l'irudothérapie? Ces frères Gassot se sont lancés là-dedans, ou ont repris, on ne sait pas exactement de quand date cet élevage, mais c'est un élevage qui se trouvait sur le bord de la Seyonne, qui est le cours d'eau principal de Mons. Et donc, l'irudothérapie, c'est quelque chose qui existe depuis le deuxième millénaire à peu près avant notre ère, et qui se pratique avec des drôles de bestioles, ce sont les sangsues. Donc, à Mons, le long de la Seyonne, On avait créé, grâce à un astucieux système qui alimentait des marais par des rigoles taillées dans des pierres ainsi que dans des vasques, un endroit propice pour l'élevage de ces sangsues. À l'époque, c'était une population très nombreuse de sangsues que l'on pouvait trouver parce que tous les pharmaciens en réclamaient. C'est quelque chose qui s'est perdu pendant des années et maintenant, la médecine s'intéresse beaucoup à ces genres de bestioles.
On y revient un peu, oui.
On y revient un peu parce qu'on s'est aperçu que dans la salive de ces bêtes-là, il y avait des tas de choses qui pourraient aider maintenant les opérations délicates telles que les greffes d'oreilles, de doigts, de peau, mais également dans le traitement de certains cancers, entre autres le cancer du sein ou avec le syndrome des gros bras. Tout simplement parce que ces sangsues arrivent à pomper quand même beaucoup de sang et une fois qu'ils ont absorbé tout ça, elles laissent dans le sang des substances anticoagulantes, vasodilatatrices, anti-inflammatoires, anesthésiantes. Enfin bon, des choses qui, en définitive, peuvent aider les chirurgiens à soigner et surtout à faire beaucoup de choses pour les patients.
Alors après les sangsues et les frères Gassot, les sangsues des frères Gassot, je voudrais qu'on termine avec un autre personnage. Alors, il y a eu les frères Cordonnier aussi, il y a eu Caffarelli, le grand général d'Empire, mais je voudrais qu'on parle de Robert Case, cet écrivain qui est lié à la commune de Mons, ce que j'ignorais, écrivain qui fut connu à la fin du 19e siècle, ami de Huysmans, de Verlaine et des frères Goncourt, et de Léon Blois également. Alors quel est son lien avec Mons?
Ses grands-parents et ses parents ont habité Mons, plus exactement le domaine de Trinchamps, et il venait entre autres passer souvent ses vacances à Mons. Il a eu une enfance relativement difficile. Et en 1870, il s'est engagé dans la Commune de Paris. Et pour cette raison, il a dû se réfugier en Suisse pendant 3 ou 4 ans. Et c'est là d'ailleurs qu'il a connu son épouse. Et son beau-père, qui était imprimeur, lui a permis de publier ses premiers textes d'écrivain. Il était écrivain naturaliste. Et ensuite, disons, il est rentré sur Paris et il faisait salon sur Paris, il recevait les grands peintres de l'époque, Pissarro, il recevait les grands journalistes et certains disent de lui que s'il n'était pas mort si jeune, suite à un duel, il est mort donc à 33 ans, il aurait été l'équivalent de Maupassant. Et cet écrivain, disons, Robert Case, à sa tombe est enterré dans le cimetière de Mons, à l'entrée du cimetière de Mons.
Une des choses que j'aurais appris grâce à vous deux aujourd'hui, j'avoue, je suis étonné par la richesse de l'histoire de cette petite commune de Mons et par les personnages parfois pittoresques qui y ont vécu ou qui lui sont attachés. Merci infiniment à tous les deux, Julien Albar et Jean-Marie Rouvière, de nous les avoir fait découvrir au cours de cette émission. Je suis persuadé que nombre de nos auditeurs ont été aussi surpris que moi et qu'ils auront beaucoup appris en vous écoutant. Je rappelle que le groupe Histoire de Mons auquel vous appartenez l'un et l'autre se réunit tous les lundis soirs au foyer rural de la commune. Je suppose que toutes les bonnes volontés, tous les passionnés d'histoire sont les bienvenus pour y participer. Alors n'hésitez pas à rejoindre le groupe si vous en avez envie. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupré, à la technique Francky Guéret. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.